de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le but de Dieu, et c'est notre joie aussi ce matin, quelles que soient les circonstances que nous vivons, traversons, le but de Dieu pour toi et pour moi, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et c'est impressionnant, n'est-ce pas, quand nous lisons ça? Dieu veut que tu sois semblable à Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas être divin, mais Dieu veut nous transformer pleinement pour que nous soyons saints et que nous puissions participer, vivre pleinement l'intimité au sein de la Trinité. L'intimité dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour cela, Paul nous dit que Dieu utilise toutes choses, notamment la souffrance dans le contexte dans lequel il parle, mais toutes choses pour nous transformer. Ce que, en langage théologique, on appelle la sanctification, n'est-ce pas ? Que Dieu nous rend de plus en plus saints, de plus en plus semblables, au final, ça veut dire, à Jésus-Christ. Mais Paul dit ici bien que Dieu utilise, nous savons du reste que toute chose coopère, pas seulement la souffrance, toute chose dans notre vie, Dieu l'utilise pour nous faire grandir, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Ce qui veut dire aussi, dans notre thème de notre travail, Dieu utilise notre travail pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Dieu utilise notre activité, qu'elle soit rémunérée encore une fois ou non rémunérée. Dieu utilise nos activités, notre activité, donc dans l'entreprise, peut-être notre activité en tant que parent au foyer, notre activité en tant que retraité, notre activité en tant que chômeur. Dieu nous donne cela dans le but de nous transformer, de nous rendre semblables à Jésus-Christ. On peut se poser encore alors la question, en quoi notre activité est-elle un outil dans les mains de Dieu pour nous rendre semblables à Jésus-Christ? En quoi notre activité tout à l'heure à la maison, en quoi notre activité de cette semaine qui s'ouvre devant nous, Dieu va l'utiliser pour nous rendre semblables à Jésus-Christ? Et j'aimerais aborder deux textes brièvement avec vous. Premier texte, il se trouve dans Exode, au chapitre 16. Le peuple vient de sortir d'Égypte. Dieu l'a délivré par des actes grandioses, par des grands miracles, des grands signes, pour reprendre le vocabulaire biblique, qui montrent qui est Dieu. Et alors que le peuple a traversé maintenant la mer des joncs, ils se retrouvent dans le désert, ils ont faim, comme chacun d'entre nous. Et voilà ce que nous lisons. Chapitre 16, je lis les 5 premiers versets. Toute la communauté des Israélites partit d'Élim pour arriver au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Alors toute la communauté des Israélites murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites et des viandes et que nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez fait venir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils récoltent chaque jour. » Donc naturellement, comme pour chacun d'entre nous, se pose la question, on a faim, qu'est-ce qu'il y a à manger ? N'est-ce pas ? Comme tous nos enfants nous disent avant chaque repas. Et le peuple râle. Et ce qui est terrible, c'est qu'est-ce qu'on était bien quand on était en Égypte, quand le roi jetait nos premiers-nés et nos garçons dans le Nil et pour qu'ils soient dévorés par les crocodiles. Qu'est-ce que c'était bien ce temps-là ? Parce que franchement, au moins, on mangeait à notre faim. Franchement, qu'est-ce que c'était beau qu'on était esclaves, qu'on nous frappait toute la journée. Et c'est ça qu'ils sont en train de dire, n'est-ce pas ? Ils regrettent l'esclavage. Et Dieu, sans faire de reproches, va pourvoir à la manne. La manne qui est une sorte en fait de graine qui ressemble à de la coriandre et que le peuple va pouvoir travailler pour en faire un pain. Et le texte nous dit que ça avait un goût de miel. Donc c'était quand même quelque chose de sympa. Et tous les jours, en fait, jour après jour, pendant 6 jours de la semaine, le peuple devait sortir pour ramasser cette graine, cette manne, et la travailler pour en faire à manger. Et cette manne, cette graine, ne se conservait pas. En fait, le lendemain, si on avait conservé, ça pourrissait, il y avait de la vermine dedans, et donc il fallait jeter. Donc Dieu pourvoyait un jour après l'autre, un jour après l'autre. Sauf, le texte nous dit, le septième jour. Le septième jour, il n'y avait rien à ramasser. Dieu ne donnait rien le septième jour. Mais le sixième jour, il donnait le double. Et par miracle, en fait, le septième jour, la nourriture se conservait. Donc c'est Dieu qui est intervenu miraculeusement ici pour pourvoir au double, pour que ça se conserve pour le septième jour. Et ce septième jour, là, Dieu institue le repos. Vous n'allez pas sortir. Vous n'allez pas travailler. Je vais pourvoir à ce que vous avez besoin. Personne ne va en ramasser. Alors bien sûr, le texte nous dit que certains n'ont pas pu s'empêcher pendant les jours de la semaine d'en garder. On ne sait jamais. Peut-être que Dieu s'est planté. Et donc, on en garde pour le lendemain et ça pourrit. Et bien sûr, le septième jour, le jour du sabbat, certains n'ont pas pu s'empêcher. Vite, on va voir s'il y a à manger. Et il n'y en avait pas. Et au travers de cela, Dieu nous dit, je vais mettre mon peuple à l'épreuve. Et voilà l'épreuve de Dieu dans le travail. La question que Dieu pose, est-ce que vous me faites confiance ou pas? Est-ce que vous avez confiance en moi? Est-ce que vous croyez que je vous aime suffisamment pour vous donner ce que vous avez besoin jour après jour? Est-ce que vous avez confiance en moi de penser, de croire que je vous ai sauvé avec de si grand miracle, de si grande intervention dans le pays d'Égypte, que je ne suis pas capable de vous donner à manger maintenant? Est-ce que vous croyez que je vous aime? Alors franchement, oui, je vous ai mis dans une situation difficile, hein, sérieux. Aller au désert, ce n'est pas forcément là où on trouve le plus de nourriture, n'est-ce pas? Dieu le sait. Mais au travers de cela, Dieu dit, je veux voir si tu as confiance en moi. Je vous permets de vivre quelque chose de difficile pour vous voir, pour que vous puissiez comprendre « Je t'aime. » Et tellement je t'aime, je ne fais pas seulement te délivrer, tellement je t'aime, je te donne ce que tu as besoin. Et je te le donne jour après jour après jour. Et ce principe, en fait, ça va être transmis dans les 10 commandements, Exode 20, n'est-ce pas? Où Dieu dit « Travaillez pendant 6 jours, réjouissez-vous, je vous ai donné plein de capacités, mettez-les en action, utilisez-les, travaillez tous. Mais le septième jour, arrêtez-vous. Et vous verrez, vous aurez assez. » Le septième jour, arrêtez-vous parce que votre vie ne dépend pas de votre travail. Ultimement, c'est moi qui travaille et je pourvois à tes besoins parce que je t'aime. Il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans une époque où le peuple va entrer dans le pays et va récolter parce qu'il dépend de l'agriculture, n'est-ce pas? Et à cette époque-là, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de congélateur, il y a encore moins de micro-ondes, n'est-ce pas? Et pour les ouvriers, ils n'avaient pas de CDI comme nous, on en a, un contrat à long terme, où à la fin du mois, il y a le patron qui fait un virement sur notre compte en banque. Il n'y avait pas de ça. On travaille un jour et je te donne ton salaire du jour. Et demain, on verra. Tu reviens travailler le lendemain et je te redonne le salaire du jour. Donc, chaque jour, on dépend de notre travail. Donc, vous imaginez ne pas travailler un jour, ce que ça veut dire. Est-ce que je vais avoir ce qu'il me faut? Est-ce que j'aurai encore du travail le surlendemain? Et Dieu, dans ce monde qui dépend de l'agriculture, dit « Stop, arrête-toi, ose t'arrêter parce que je prends soin de toi. » Travailler et s'arrêter est une démarche que Dieu utilise pour nous apprendre la foi en lui, pour nous apprendre à nous confier en lui, pour apprendre qu'il nous aime. Et comme le peuple dans le désert, il va parfois nous mettre dans des situations difficile. Mais il va le faire volontairement dans ce but précis, nous apprendre qu'il est celui qui nous aime et qui prend soin de nous. Il veut nous apprendre la foi. Et cet acte de foi n'est toujours pas facile pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? on est habitué à penser que nous sommes les maîtres de notre vie. On maîtrise tout, du début à la fin. On maîtrise nos études. Après, à 25 ans, on va se marier. À 27 ans, on aura le premier enfant. À 30 ans, je vais m'acheter l'appartement. À 32 ans, j'aurai le troisième enfant. À 35 ans, je vais m'acheter la maison. À 60 ans, je serai en retraite. Et puis après, on verra. Mais on a tellement l'habitude de tout planifier, de tout gérer, avec tous nos comptes en banque, avec toutes nos assurances, et a priori en Suisse, on est un peu les champions d'assurance, n'est-ce pas ? Qu'on veut tout maîtriser, même la météo et le cours de l'histoire. Et pourtant, Dieu permet parfois des moments difficiles. Crise économique, perte du travail, difficulté à en retrouver un, chômage, maladie, accident. Peut-être parfois nos rêves volent en éclats. Peut-être qu'à 25 ans, je ne suis toujours pas marié. Mais qu'est-ce que je fais alors ? Peut-être qu'à 30 ans, je suis marié, mais je n'ai toujours pas d'enfant. Qu'est-ce que je fais alors ? Est-ce que Dieu m'aime ? Et c'est vite cette question qui revient, n'est-ce pas ? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? Et c'est cette question que Dieu posait avec l'arrêt du travail. Crois-tu que je t'aime ? Crois-tu que je t'aime au point de pourvoir à tes besoins jour après jour, à tes besoins essentiels, pas à ton superflu, tes besoins essentiels ? Arrête-toi. Et tu vas voir. Dieu nous appelle ici à reconnaître nos limites, à relâcher le stress et la pression de penser qu'on gère tout. Et parfois, c'est vrai qu'on a le privilège d'avoir le samedi-dimanche dans lequel on s'arrête, mais est-ce que dans nos têtes, on s'arrête ? Est-ce qu'on arrête la pression de tout gérer ? Est-ce qu'on arrête les soucis du quotidien ? Ou on peut simplement se dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Je m'en remets pleinement à toi. C'est toi qui sais ce dont j'ai besoin. C'est toi qui m'aimes. Alors je me confie en toi. Tu vas pourvoir à mes besoins. C'est vrai que ça ne va pas être forcément le congélateur plein comme j'aimerais. Mais tu vas pourvoir. Et je m'attends à toi. Celui qui nous a libérés, c'est lui qui gère. Et il le fait parce qu'il nous aime. Avec Claire, on a dû l'apprendre. Dans notre première année de mariage, en fait, on s'est mariés, on est peut-être un peu inconscient, mais on n'avait pas de travail. Moi, j'étais encore étudiant, Claire venait juste de finir ses études. Bon, c'était une période, c'était un peu plus facile de trouver du travail. Mais c'est vrai qu'on s'est mariés, on est partis en voyage de noces, et on s'est dit, le lendemain, on est rentré, Claire est partie chercher du travail, et moi, je suis reparti à la fac. Et on a été gâtés où Claire, le deuxième jour, a trouvé du travail. Et c'est vrai qu'on avait prié avant que Dieu donne pourvoir, parce que voilà, on va en avoir besoin. Alors, on avait de quoi pourvoir le premier mois, mais on avait besoin. Et on était reconnaissant que Dieu est pourvu. Et au bout d'une année, il y avait d'autres besoins, parce qu'il y avait une aide qu'on avait qui a été enlevée, et on s'est dit, là, on est mal. Donc, soit il faut trouver un autre travail qui pourvoit plus, soit que moi, je réussisse mes examens et que je puisse travailler. Et on a prié. Il en a pris que Dieu donne une solution. Et c'est vrai que moi, parfois, j'étais pris de vertige, quoi, notamment une fois, face à ces examens que je devais passer, en disant, ça va être terriblement chaud, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent, pas parce que je suis bon, parce que j'ai réussi, en fait. Mais c'est un concours à la française, quoi. Hein. Et purée, ça va être chaud, quoi. Et moi, j'ai imaginé, mais qu'est-ce que je vais faire comme autre étude ou comme travail, parce qu'en fait, je vais rater, quoi. Et on a encore pris le temps de prier. Et Dieu a permis que je réussisse mon examen. Et on était reconnaissants. Et je vous souviens, les premières fois où on a reçu mon salaire, qu'est-ce qu'on était reconnaissants ? Merci Seigneur parce que c'est toi qui pourvois. Merci Seigneur parce que c'est toi qui pourvois. C'est toi qui donnes aujourd'hui. Mais au bout de quelques mois, qu'est-ce qui se passe ? On s'habitue. Il n'y a plus la reconnaissance. On ne dit plus merci. Et c'est quelque chose de terrible. Et on a été confrontés à ça, en fait, quand on s'est engagé dans la formation pour être pasteur. Et on s'est dit, mais voilà, on arrête d'avoir un salaire maintenant. On va dépendre de personne. Et on s'est engagé, on n'avait pas ce qu'il nous fallait. Sur notre ligne de budget, ça ne correspondait pas. Et on a appris, Dieu a pourvu jour après jour, après jour. Et on a dû à nouveau apprendre. C'est vrai que j'ai un travail, c'est vrai que j'ai un salaire, mais ce travail et ce salaire, au final, c'est qui nous le donne ? Ce n'est pas mes capacités. Au final, ce n'est pas mon patron, mais c'est Dieu. Et on doit apprendre à nouveau la reconnaissance et à relâcher. Relâcher cette pression. Dieu est celui qui pourvoit. Et je veux apprendre à me confier en lui. Arrêter tous mes calculs, tous mes soucis, toutes mes craintes du lendemain, pour à nouveau me placer devant lui, dans sa conduite. Il prend soin de moi, parce qu'il m'aime. Celui qui m'a délivré m'appelle à m'arrêter, pas forcément dans le travail, mais aussi dans le travail, mais aussi dans tous les soucis, les craintes que j'ai ici, pour lui dire, je veux trouver la paix et le repos en toi, parce que tu es celui qui m'aime et qui prend soin de moi. Par la cessation du travail, Dieu nous apprend la foi en son amour bienveillant. Et c'est vrai aussi, et là, messieurs, si c'est votre femme qui est à la maison, ou vous, mesdames, si c'est votre mari qui est à la maison, il y a besoin aussi de le reconnaître et de lui dire merci et de valoriser son travail. Par ton travail, et si par l'arrêt, Dieu nous apprend la foi en son amour bienveillant. Deuxième chose, ah, ça c'était là, la première. Le travail, Dieu l'utilise aussi pour révéler mes idoles personnelles. Dieu l'utilise pour révéler tes idoles personnelles. Deuxième texte, Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce texte est assez étonnant par ce qu'il nous dit, c'est que Paul doit nous dire « Je vous exhorte donc ». Pourquoi Paul doit écrire cela ? Pourquoi Paul doit nous dire « Faites-le, je vous encourage, allez-y !» Faites ce culte à Dieu, rendez ce culte à Dieu, recherchez ce qui est bon et agréable et parfait à Dieu. Pourquoi Paul doit nous dire cela ? Et la réponse, c'est pas très agréable. C'est parce qu'on a tendance à faire le contraire. Si Paul doit nous dire « Je vous encourage à adorer Dieu, à faire de votre vie un culte », c'est qu'on a l'habitude de faire de notre vie un culte à autre chose qu'à Dieu. Un culte à moi. Un culte à mon travail. Un culte à mes loisirs. Un culte à d'autres choses. Franck était un ami, quoi, est toujours un ami d'ailleurs, un ingénieur, il était ingénieur, il est pasteur maintenant, ingénieur qui était bien reconnu dans son travail, qui faisait un bon travail. À cette époque-là, il était jeune et dynamique. Il est encore dynamique, mais il est moins jeune. Et un jour, Franck a fait une erreur dans son travail. Il s'est fait convoquer par son patron. Et son patron lui a passé un de ses savons, qui s'en est souvenu. Il était tellement en colère que quand il est revenu dans son bureau, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déversé toute sa colère sur sa secrétaire. Elle n'y pouvait rien, sa secrétaire. Elle n'avait rien fait, elle n'avait pas fait d'erreur. Mais tellement il était en colère de ce qui lui était passé, toute sa colère est ressortie sur la première personne en dessous de lui qui lui passait par la main. Et si ça n'arrive pas au travail, ça nous arrive à la maison, n'est-ce pas ? On a une journée difficile à la maison ou au travail et il y a les enfants qui arrivent par là et qui nous demandent encore un truc. C'est le truc, ça fait plusieurs fois qu'on leur dit non, etc. etc. quoi. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a de fortes chances que notre colère va sortir sur les enfants. Ils n'y peuvent rien. Ils sont là, pas par hasard, mais ils sont les premiers qui nous tombent sous la main. Et notre frustration, notre colère de la journée va retomber sur eux pour une petite bêtise. Voilà ce que nous dit Frédéric de Coninck, sociologue chrétien. Le travail, l'action ou le militantisme sont des épreuves de réalité. Des moments où nous nous heurtons aux autres, au réel et à ses limites. Qui nous font avancer, mais qui nous ramènent également sur terre. Ce sont des écoles d'humilité, de patience et aussi d'espérance. Alors ne disons pas d'emblée que tout est facile. Osons dire, au travail, c'est pénible. À la retraite, c'est pénible. En tant que jeune avec des parents, c'est pénible. Il y a des moments difficiles. On se heurte à la réalité dans notre activité. Le dimanche, c'est facile de dire « Amen et Alléluia », n'est-ce pas ? Mais dans notre activité, Dieu nous montre ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, notre activité, encore une fois, rémunérée ou pas, agit comme un miroir que Dieu utilise pour nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies. Et ce n'est pas joli toujours. Et parfois, ça fait mal. Il me montre mon orgueil, mon manque d'amour, mon racisme, mon sexisme, ma violence, mon esprit tordu. Il me montre le culte du moi, le culte du matériel et tous les autres cultes qui vont à l'encontre de Dieu par mon travail. Mais dans sa bonté, Dieu ne nous confronte pas à nous-mêmes, ne me confronte pas à moi-même pour m'écraser, pour m'enfoncer et m'humilier. C'est vrai que c'est humiliant, mais comme le dit ici Frédéric de Coninck, ce sont des écoles aussi d'espérance. École d'espérance dans le sens où en fait Dieu nous place volontairement, comme dans le désert, Dieu nous place volontairement dans ces situations-là pour nous permettre d'apprendre et nous laisser être transformés, conduits par son esprit, comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates, de marcher par l'esprit, de volontairement prendre le rôle, la relation, l'attitude que Dieu veut. En fait, au travail, Dieu va me placer face à des gens peu aimables, n'est-ce pas ? Que ce soit un collègue, que ce soit un client, un élève. Pourquoi Dieu va faire ça ? Parce qu'il veut m'apprendre à aimer. En fait, je ne vais jamais apprendre à aimer si je suis qu'avec ma femme. Bon, quand même. N'est-ce pas ? Eh, tous les couples, soyez honnêtes, hein. Mais c'est facile d'aimer quelqu'un qui est aimable, n'est-ce pas ? Mais quand ça devient pénible, quand il nous énerve, c'est là qu'on doit apprendre ce que ça veut dire aimer. Et Dieu nous montre notre manque d'amour et va travailler en nous. Dans notre activité, Dieu va me placer dans des situations pénibles, dans des disputes avec les enfants, dans des critiques des autres membres de l'association, de l'Église peut-être même. Pourquoi ? Parce que Dieu veut m'apprendre à me maîtriser. Que je me maîtrise, pas qu'on me maîtrise, que me maîtriser. Dieu veut m'apprendre à être doux et bon dans mes propos et mes attitudes. Dieu nous place volontairement dans ces situations-là. Et le travail, encore une fois, rémunéré ou pas, sert à cela. Par mon activité, en fait, Dieu veut développer en moi, Dieu veut développer en toi le fruit de son esprit. N'est-ce pas ? Et c'est quoi ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Un caractère qui reflète Dieu. Être semblable à Jésus-Christ. Rien de spectaculaire, n'est-ce pas ? Aucun de ces dons grandioses de l'esprit qu'on lit dans 1 Corinthiens 12, par exemple. Mais c'est le fruit, ce travail intérieur que Dieu veut faire en nous, en nous confrontant les uns avec les autres, en nous heurtant à ces épreuves de réalité, pour nous dire, Philippe, regarde comme tu es. Et parce que tu es comme ça, tu dois encore changer. Et je vais te laisser dans cette situation. Je vais te laisser peut-être dans la maladie. Je vais te laisser peut-être avec un collègue pénible. Je vais te laisser dans cette difficulté parce que tu dois apprendre. Parce que mon but pour toi, c'est que tu sois semblable à moi. Et pour cela, je te donne cela. Je te donne ces situations-là. Mon travail représente une nouvelle opportunité, celle d'être semblable à Jésus-Christ. Alors soyons clairs, ce n'est pas un appel à l'orgueil, n'est-ce pas ? Pour certaines personnes, je suis la personne pas aimable, hein, et tu l'es aussi. Pour certaines personnes, je suis la personne pénible, et tu l'es aussi, d'accord ? On n'est pas là pour dire que nous sommes bons et que les autres sont là pour notre bien, simplement. C'est vrai, mais je suis là aussi pour le bien des personnes. Alors attention, ce n'est pas une excuse pour mal faire. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on se confronte les uns aux autres. Dieu nous place dans des situations où on se heurte. Et il le fait volontairement pour nous montrer ce qui ne va pas et ce qui doit encore changer. Et pour nous dire, Philippe, dans ton mariage, tu dois apprendre à servir. Tu dois arrêter de regarder à toi. Et c'est pour ça que Paul nous dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu. À cause de ce que lui a fait, toi, le non-aimable, pas un petit peu aimable, un petit peu pas aimable, le complètement non-aimable, il t'a aimé. Et il est venu sur terre, il a été crucifié pour t'aimer toi et te transformer, te rendre semblable à lui. À cause de ses compassions de Dieu. À cause de son grand amour, à cause de son grand sacrifice, laisse-toi changer. Mais laisse-toi changer parce qu'il a payé le prix de ton manque d'amour. Parce qu'il a payé le prix de ton racisme. Parce qu'il a payé le prix de ton sexisme. Parce qu'il a payé le prix de ta violence verbale ou de tes attitudes. Parce que le pardon a été accordé. Alors on peut être relevé et on peut choisir à notre tour de mettre en œuvre, de laisser l'Esprit agir en nous, de lui obéir quand on nous dit « Là, Philippe, non, parle différemment, agis différemment. » Et voilà ce que je te propose. Choisis une personne. Pense à une personne maintenant. Une personne qui n'est pas forcément aimable, qui est certainement pénible, qui n'attire pas forcément ton regard. Pense à cette personne. Peut-être elle est dans ton foyer. Peut-être elle est dans ton travail. Peut-être elle est dans une association dans laquelle tu agis. Cette personne pour laquelle c'est dur et par laquelle Dieu te montre tes idoles. Parce que ce n'est pas que elle le problème. Hein. En fait, le problème, c'est dans notre réaction. Pense à ces personnes dans lesquelles Dieu me montre nos idoles, tes idoles, mes idoles. Et je t'encourage à prendre le temps de prier tout à l'heure pour cette personne, pour que Dieu t'apprenne à l'aimer, pour que Dieu t'apprenne à lui parler différemment, pour que Dieu t'aide à la mettre en valeur, à rechercher son bien, à être bon et doux avec elle, afin qu'avec cette personne-là, tu puisses apporter à Dieu ton culte logique, raisonnable, ce qui est agréable, bon et parfait. Et franchement, ça, c'est un défi pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? On a tous une personne comme ça, au minimum une. Je t'encourage, prends le temps, cet engagement devant Dieu, parce que tu m'aimes, parce que tu m'as pardonné, parce que ta grâce me relève encore aujourd'hui. Pardonne-moi. Pour mon manque d'amour, pour mon manque de douceur, de bonté, de maîtrise de soi, de patience. Et aide-moi avec cette personne-là. Et pense à l'avance ce que tu vas lui dire demain. Pense à l'avance à l'attitude. Parce que si tu ne le fais pas et que tu attends au dernier moment et d'improviser, ça ne va pas marcher. C'est un choix volontaire, préparé, que d'obéir à Dieu et de marcher par l'Esprit. Notre attitude, notre travail, ça, on ne le fait pas. Notre travail revêt un sens nouveau avec notre conversion. Si je reprends un peu ce qu'on a fait, et c'était la dernière sur le travail, notre travail par notre conversion, dans notre travail, Dieu nous donne un nouveau maître. Nous servons Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Par notre travail, Dieu nous utilise pour apporter la paix, la justice dans ce monde-là, pour prendre soin des autres. Par notre travail, Dieu veut nous changer. Dieu veut nous rendre semblables encore à lui. Autrement dit, notre activité compte. Notre activité a énormément de valeur dans les yeux de Dieu. Ce n'est pas juste avec Dieu le dimanche et au groupe de maison. C'est avec Dieu chaque instant de ma vie. Parce que Dieu utilise tout ça pour agir en moi, mais également pour se refléter dans ce monde et apporter sa paix dans ce monde. Par notre travail, Dieu nous demande de l'aimer, lui, d'un cœur entier, de toutes nos forces, de notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et encore une fois, cela n'est pas possible par nos propres forces, mais va être le résultat, la réponse à sa grâce, dépendant de sa grâce pour le pardon. Je vous invite à prier.